là, tu arrives chez moi. Comme tu le vois, les murs sont noirs. En fait, j'ai eu un petit accident dimanche. On m'avait offert cette lampe à huile. Et en fait, c'est très dangereux. Je l'avais utilisée l'été dehors sur ma terrasse, et ça va. Mais en fait, l'hiver, les fenêtres fermées avec l'humidité, ça, il y a eu des combustions. Alors, les termes physiques, je ne sais pas, mais le fait est que j'avais mal aux yeux, mal à la tête. Mon appart couvert de noir, j'avais du noir dans le nez, en fait. Et j'ai toujours mal au ventre parce que je pense que j'ai aussi inhalé du monoxyde de carbone, hein, je crois. Donc, en fait, c'est comme ça que les gens se suicident, tu sais. Mais moi, c'était un accident et j'en suis pas morte.
Rosa Bernstein parle d'amour et de sexe et d'amour partout, tout le temps, mais aussi d'absence de sexe et d'absence d'amour. De l'envie folle et de la flemme de l'un et de l'autre parfois. Rosa est humoriste, à la nouvelle scène, présentatrice d'orgasmique sur Teva, host du podcast à succès Les mecs que je veux ken, écrivaine d'un récit du même nom et comédienne. Ses journées sont bien remplies, mais qu'en est-il de ses nuits ? J'adore quand un invité me propose d'enregistrer 4h12 chez lui. Généralement, il se sent si bien que de vraies belles choses se passent. On est chez Rosa, donc, à Bagnolet. Je suis assise devant la table de son salon, ouvert sur une cuisine, avec un thé à la main, et je lui pose ma première question, ma préférée, puisque la réponse est souvent poétique. Rosa, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me décrire l'endroit où tu dors ?
Alors, ma chambre est juste à côté de mon salon, là derrière. Quand j'ai fait les travaux, il y avait juste un mur et c'était une pièce assez sombre. Et donc, j'ai cassé pour pouvoir faire une mini verrière et avoir plus de lumière. Donc, c'était important pour moi d'avoir de la lumière. J'ai presque trop de lumière dans ma chambre. Résultat, je ne suis pas complètement dans l'obscurité dans la nuit. C'est pour ça que j'adore, je dors mieux en général quand je voyage et que je vais à l'hôtel et je me réveille et je me dis, oh, wow, je suis encore dans le noir. Dans ma chambre, j'ai quand même pas mal la lumière du jour le matin. Mais c'est une grande chambre, donc ça c'est chouette. J'ai pas mal d'espace autour de ma tête, c'est bien pour respirer. Avant, j'étais dans un appartement où ma chambre était mansardée et j'étais un peu. Je devais me plier en quatre pour sortir de ma chambre. C'était un peu compliqué. Là, j'ai de l'espace. J'ai de l'espace pour ranger mes vêtements, même faire mon repassage. J'aime bien, ça me détend. Et j'ai tous mes livres, j'ai ma bibliothèque avec tous mes bouquins.
Alors, il y a quoi comme livre, par exemple, tes livres de chevet
Oh, j'en ai tellement. Donc, mes livres. En ce moment, je suis en train de lire le livre de Titou Lecoq, Les oubliés de l'histoire. C'est vrai que je l'ai reçu dans mon podcast à propos de son livre sur le couple et l'argent et pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Et puis, je suis en train de me replonger dans toute l'œuvre de Titou Lecoq, qui est si brillante. Mais ensuite, les grands livres phares de ma bibliothèque, il y a Kundera, Stéphane Zweig, Balzac. Moi, j'aime beaucoup les classiques français du 19e siècle, et aussi j'aime bien la littérature russe, pareil de cette époque, Tolstoï, Dostoïevski, j'adore ces livres-là. Je suis moins férue de littérature américaine, je suis pas une grande spécialiste de la littérature du 20e siècle, plutôt début 20e, enfin si, années 50-60, j'aime beaucoup Aragon aussi, Aurélien, mais voilà, parfois j'ai des manques en littérature contemporaine, mais j'aime bien mes petits classiques, évidemment, Flaubert, tout ça.
Alors, puisqu'on parle de littérature et d'œuvres, tu l'auras compris, mon sujet, c'est la nuit. Et même si aujourd'hui, je ne fais plus du tout d'insomnie, j'ai un peu honte de le dire dans ce podcast, mais c'est la réalité parce que ce podcast m'a servi de thérapie, je crois.
Génial!
Voilà, donc est-ce qu'il y a des œuvres qui t'évoquent la nuit?
Ah, c'est une bonne question. Des œuvres qui m'évoquent la nuit. Pourquoi je pense au rouge et le noir? Je pense que c'est le titre, le noir. Je pense à un livre, c'est Le Maître et Marguerite. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il semble que c'est Boukalkov, l'auteur russe. Et c'est un livre très, très onirique. En fait, c'est vraiment un récit qui ressemble à un rêve. Avec un chat qui parle et des histoires complètement féeriques, ouais. Après, je sais pas pourquoi je pense aux Russes ce matin, mais Crime et Châtiment, le meurtre de la vieille dame, il y a aussi quelque chose de très cauchemardesque en fait, très angoissant. Parce que la nuit, ça peut être voilà, des rêves fous, rigolos, on raconte bah, tu sais pas quoi, et c'est justement un truc, un animal qui parle ou un truc. Mais ça peut être aussi, évidemment, des cauchemars, j'en fais pas mal. Et donc là, des situations où il y a quelqu'un qui court après quelqu'un. Des scènes de poursuite, en fait. Plutôt ça, c'est les films aussi, où quelqu'un pourchasse quelqu'un. Les films de Hitchcock, il y a un truc vraiment sur le sommeil, le fait de suivre. C'est quoi le fameux film de Hitchcock? C'est Psychose là, où, ouais. Avec la blonde et qu'on suit, qu'on voit toujours de dos. Ouais, ça, c'est vraiment une nuit, quoi.
Et alors, avec qui tu dors?
Mon chat. Je dors avec mon petit chat, il vient se mettre sur moi, c'est trop mignon. Bon, par contre, j'aime pas le matin quand il me réveille très tôt. Comme en ce moment, je suis célibataire, je dors seule. J'avoue que j'adore dormir seule. J'ai un peu de mal parfois avec... si je pars en vacances avec ma mère et qu'on dort dans la même pièce, mais dans des lits séparés, c'est plus difficile quand même. Elle ronfle. Quand j'étais petite, je dormais avec ma petite sœur, ça c'était marrant. Et si je dors avec un mec, est-ce que je dors bien? Ça dépend du mec. Il y en a qui ronflent, c'est un peu chiant. Il y en a qui sont hyper silencieux, c'est génial. J'avoue que les mecs qui font pas de bruit quand ils dorment, c'est quand même un super pouvoir, quoi. Et puis parfois, ça peut être un signe de complicité, de réussir à bien dormir à côté de quelqu'un. Et en même temps, si je rencontre un mec et que je suis trop amoureuse de lui, je peux pas dormir. Parce que j'ai trop de trucs qui se passent dans mon cœur. Enfin, tu vois, je suis excitée. Et puis, si c'est un peu passionnel et que c'est quelqu'un que je revois, mais je sais que je reverrai pas forcément parce qu'il est trop compliqué, ben, j'ai un truc un peu tristoun où je profite de passer de la proximité de la nuit avec lui et je sais que ça se reproduira peut-être pas certainement. Donc, Mais tu sais, il y a aussi un truc où parfois tu détectes si un mec te kiffe quand tu te réveilles et tu le surprends et il te regarde.
Alors, dans la continuité de cette question, est-ce que tu as déjà eu un doudou?
Oh, oui, absolument. Quand j'étais petite, j'avais un doudou qui s'appelait Tootsie, qui était la marque, en fait, certainement américaine. Et c'était un énorme ours. Il était très gros. Et ça me rassurait énormément de pouvoir le serrer dans mes bras. C'était nos parents qui nous avaient offert ça. À ma petite sœur, ils lui avaient offert un singe. Elle appelait son grand singe. Elle dormait avec, elle a dormi très longtemps avec Grand Singe. Et moi, c'était mon grand ours marron, très joli, avec un petit nœud papillon rouge, très chic et rassurant. Et que j'ai fini moi-même toute seule à sortir de mon lit, je pense, à l'entrée en sixième. Genre, j'ai eu une espèce d'impératif catégorique de grandir Rosa. C'était aussi l'année de ma bat mitzvah, tu sais, où tu passes de l'enfance à l'âge adulte. Et je crois que je l'ai mise dans un carton. Mais c'est pas mes parents qui m'ont dit, je crois que c'est moi-même qui ai rompu avec ce doudou. Ouais, en me forçant à devenir adulte. Un truc un peu chelou, ouais.
Mais tu sais, le doudou, c'est hyper intéressant parce que c'est un objet transitionnel entre l'enfant et le parent. Et on pense s'en affranchir en grandissant. Mais je crois que tous les adultes ont un doudou auquel se raccrocher, que ce soit une addiction, au smartphone, la cigarette qu'on met à la bouche, comme on mâchouille son doudou par exemple, etc. Alors toi, c'est quoi ton doudou d'adulte?
Là, regarde, j'ai mon chat dans mes bras. C'est une espèce de gros doudou. C'est aussi un peu un objet libidineux, transitionnel, je sais pas quoi, le chat, parce que c'est une source de câlins extraordinaire. J'ai mon chat, hein, avec lequel je fais des câlins géniaux. La bouffe, le sucre, le chocolat, c'est vrai que... Et dans l'entrée, dans l'hiver, ça, c'est très dur de pas acheter de la nocciolata, et t'as vraiment ce truc, bah oui, enfantin, de la bouche, quoi, de la cuillère remplie de nocciolata, et aussi les, tu sais, le chocolat Milka au Daim, tu vois, des trucs comme ça. Donc ouais, j'avoue que je peux rentrer dans des phases où je suis tellement en régression enfantine que je bouffe que du sucre du matin au soir. Et ensuite, est-ce que j'ai d'autres types de doudous? Bah, peut-être aussi, c'est vrai, t'as raison, le téléphone, l'addiction, Instagram, les likes, ça a un effet un peu doudou. Ça vient réconforter, rassurer, envoyer de l'amour. Après, parfois le public, quand il rit, c'est aussi très doudou parce que c'est tellement rassurant et réconfortant. Et à l'inverse, quand ça marche moins, quand je me sens rejetée, je suis vraiment dans... un bain d'eau glacée, quoi. Ça n'arrive pas à mon spectacle, ça peut arriver en plateau, quoi. Et au plateau, si jamais je bide ou que, tu vois, hier soir, J'essaye de faire un nouveau truc dans mon spectacle. Je l'ai fait avant-hier soir, ça a très bien marché. Hier soir, moins. Et ensuite, j'ai froid partout. Ça me suit, ça me met de mauvais poils. Mais ensuite, les relations, parfois, c'est compliqué de ne pas créer une relation doudou avec un mec. Mon premier amour, quand j'avais la vingtaine, on se faisait tout le temps des câlins, on parlait en voix de bébé. On était très bébé ensemble, quoi. C'est peut-être même ça qui a... Je sais pas si ça a marqué la fin de la relation, mais c'est que l'histoire d'amour a vite laissé place à deux bébés qui mangent de la nocciolata ensemble avec des voix bizarres et qui se font des câlins. Il y a moins de place pour la sexualité ou le désir. Et c'est plus juste... ouais. Un gros doudou, quoi. Il était lui aussi très... Il ressemblait à un doudou. Il était mignon et rassurant. Et tu sais, il avait une tête adorable, quoi, ce petit copain. Il était beau, hein. Mais j'ai eu des petits copains qui ressemblaient plus à des adultes. Et parfois, t'es avec des mecs et ils ressemblent à des doudous. Ils sont choux, quoi. En tout cas, il est venu aussi vraiment au début de la vingtaine faire la transition entre l'amour des parents et le passage à une vie plus solitaire, quoi.
Alors, tu parlais de ton spectacle il y a 2 secondes. Bah forcément, je ne peux pas m'empêcher de te demander pourquoi tu portes un pyjama sur scène.
Alors ça, c'est une vraie fascination pour les vêtements de nuit que je trouve extrêmement confortables. Et j'ai été très marquée par la lecture de Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, et Solal, et toujours en robe de chambre. Et pour moi, c'était ça, la virilité. En fait, c'est pas du tout les muscles, c'est un homme avec un pyjama en soie et une magnifique longue robe de chambre, tu vois. Bon, image qui a été un peu cassée par Dominique Strauss-Kahn, hélas, dont on sait qu'il a un peu abusé de cette tenue. Mais avant cette image horrible, il y avait une image romantique. Et justement, figure-toi que Malo, je me demande si je ne nous avais pas commandé sur Internet des pyjamas assortis. Et puis, y a un truc que je trouve très chic, c'est aussi les initiales sur les robes de chambre. Un truc un peu de l'air de Wes Anderson, tu vois, de Grand Budapest Hotel. Le chic d'une autre époque. Que je trouve qui est un peu l'histoire de ma famille, tu vois, de ma grand-mère qui elle aussi était agrandie dans un grand hôtel parce que son père possédait l'Ermitage à Nice. Et alors après, bon, elle a été complètement ruinée pendant la guerre et à la fin, elle vivait dans son appart où elle faisait un staccaché dégueulasse. Mais je rêvais beaucoup. Il y avait des photos de ma grand-mère de cette époque sur la promenade des Anglais et résultat, j'avais toute une fantasmagorie. Et pour moi, le chic, ça passait aussi par la tenue de nuit. Et résultat, je trouve ça hyper important plutôt que... D'ailleurs, j'aime pas quand les mecs dorment à poil ou en caleçon. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas porter des pyjamas. peut-être parce qu'ils ont trop chaud ou j'en sais rien, ou c'est une habitude qui s'est perdue. Mais comme je travaille chez moi et que je travaille le matin, beaucoup, j'aime bien rester le matin en pyjama et mettre mon peignoir. Et d'ailleurs, j'ai un peignoir de ma grand-mère, un peignoir à carreaux, un peu scottish, tu vois. Et donc, en fait, aussi, j'avais envie, dans mon spectacle, de parler d'intime et d'accueillir les gens chez moi et dans mon fil de pensée. Et je trouvais que le pyjama, c'était l'occasion de ça, en fait, de montrer que le stand-up, le jeu, c'est vraiment... et quoi de plus intime, finalement, que d'être en pyjama dans cette tenue qui est la tenue du lit. Et en même temps, qui n'est pas une tenue sensuelle, tu vois. Je voulais pas non plus, je voulais surtout pas être en nuisette. D'ailleurs, je déteste les nuisettes, sauf les grandes, longues nuisettes. Ça, si, les nuisettes qui vont jusqu'aux pieds, ça, je trouve ça sympa l'été. Mais les petites nuisettes sexy, je trouve ça complètement inutile. Par contre, il fallait aussi sur scène une tenue qui soit féminine sans l'être. Je trouvais ça très compliqué d'être une femme sur scène en tant qu'humoriste, je trouve ça très dur parce que tu mets un tailleur ça fait un peu sévère, tu mets une grande veste carrée, c'est quoi en fait, c'est pour te viriliser, c'est pour élargir tes épaules, et non, l'humour n'appartient pas aux hommes, tu vois, c'est pas la force en fait, mais c'est quoi la tenue de la douceur, alors être en noir, est-ce que c'est pas disparaître, est-ce que c'est pas trop de discrétion, mettre en jean, on enlève quand même tout le côté théâtral, enfin je me suis vraiment pris la tête, et je suis très heureuse heureuse d'avoir trouvé aujourd'hui ce pyjama qui est très clivant. Hein. Il y a encore plein de gens qui sont en mode « Ouais, j'ai pas compris. » Mais bon, en général, c'est qu'ils sont bêtes. et puis, il y en a d'autres qui voudraient aussi voilà, que je porte des talons. Il y a plein de gens qui comprennent pas que je sois pieds nus. Mais en fait, je me dis, les gens vont pas au théâtre. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont pieds nus sur scène. Mais oui, au théâtre, j'ai souvent joué pieds nus parce que c'est un truc... Déjà, t'as une tradition de l'art pauvre, de Peter Brook. Et puis, c'est pour être connecté au sol. Et parfois, les chaussures te détachent du sol et encore plus les talons. Les talons nous perchent en fait aussi.
Alors pardon, mais pour revenir à tes angoisses, qu'est-ce qui t'empêche de dormir ?
En fait, en général, c'est pas vraiment... Les angoisses arrivent dans la nuit, mais ce qui m'empêche de dormir, c'est l'excitation. Figure-toi souvent aussi parfois l'excitation joyeuse. Hein. L'excitation joyeuse, je pense que c'est dur pour moi de m'endormir parce que je joue. Alors, le spectacle encore plus, mais même les plateaux, je pense que c'est chimique. Hein. Pour monter sur scène, c'est tellement terrifiant, en fait, comme acte, que tu dois sécréter, plein d'endorphines, des hormones, hein, quelque chose qui te fait que t'es high, quoi. T'es drogué quand t'es sur scène, t'as un truc... En fait, il y a une espèce d'instinct de survie. En fait, tu te mets en mode survie sur scène. Alors, rien ne peut m'attaquer, je suis plus forte, il y a un truc de puissance, quoi. Et résultat, pour redescendre de ça, ça met du temps. Avant de redescendre, de pouvoir s'endormir, d'accueillir la nuit, le calme. Et j'avoue qu'à Paris, parfois, je suis tellement dans le travail et ultra sollicitée. Ça m'empêche de dormir mon téléphone, ça m'empêche de me connecter tout le temps sur Instagram, évidemment, d'aller voir s'il y a des nouveaux likes, des messages. Est-ce que tel mec a regardé ma story ? Donc tout ça, évidemment, l'addiction au téléphone m'excite toutes ces couleurs et m'empêche de m'endormir. Souvent à Paris, j'ai pas la détente nécessaire pour lire un livre avant de m'endormir. Je lis beaucoup plus en vacances parce que je suis plus détendue. À Paris, en fait, je m'endors sur des films et donc en fait, je m'endors vers entre minuit et 1h du matin et il faut que je trouve la série suffisamment intéressante parce que si elle est chiante, en fait, ça va m'énerver, donc je vais pas pouvoir m'endormir. Donc il faut une série intéressante sur laquelle m'endormir. Et ensuite, parfois, ça a pu m'arriver que des angoisses me réveillent. Une peur, quelque chose, un sentiment. Mais bon, c'est aussi des alertes parce que parfois ça t'éveille aussi sur le fait que quelque chose ne va pas, qu'une personne est nocive et mauvaise. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait une personne dans mon entourage qui était très négative et pourtant je faisais des cauchemars sur elle et elle me terrifiait. Je ne sais pas si je peux en dire plus. Mais en tout cas, j'en dirai plus un jour. Tu vois, je n'ai même pas encore la distance pour écrire des sketchs ou écrire sur cette personne. Mais je faisais des cauchemars sur elle, ouais. Ouais, ouais. Elle...
Donc, ton subconscient,
m'alertait en permanence. En permanence, j'étais alertée sur le fait qu'elle était... Mais comme elle était assez forte et qu'il y avait une espèce d'emprise et qu'elle avait un autre visage qui était un visage... bien plus, non pas sympathique, mais accrocheur, et que c'était quelqu'un qui savait quoi, quand me dire et me flatter. C'était quelqu'un qui flattait incroyablement mon ego à par moments, puis ensuite, évidemment, elle l'écrasait. J'ai mis du temps à terminer cette relation avec cette personne, qui était une relation professionnelle et affective où tout était mélangé. Mais oui, dans mon sommeil, j'avais déjà fait des cauchemars sur elle, ouais.
Est-ce que tu as des rêves récurrents ?
Ça m'arrive de faire des rêves érotiques incroyables, mais en général, je m'en souviens pas. Ça a pu m'arriver de tomber amoureuse dans mon sommeil, et ça, c'était cruel, parce que je me réveillais, je me disais, mais il n'existe pas, en fait, je l'ai rêvé, je l'ai inventé. Et donc ça, frustration immense, quoi. Après, je me souviens aussi d'un premier rêve que je crois que j'ai refait par la suite, mais un rêve d'enfant, hein, d'être... un rêve amoureux, je crois, parce que c'est pas un truc que j'ai vécu. Je sais pas si je l'ai vécu ou si je l'ai rêvé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a un peu accompagnée. D'un des tout premiers amoureux de maternelle. Et on était réunis dans le préau pour regarder un film. Et je crois que j'avais ma sœur sur les genoux, donc un peu chelou, ou à côté de moi. Mais en tout cas, il venait s'asseoir, il était pas loin, et il me prenait la main. Et ça, je ne sais pas si ça a eu lieu ou si je l'ai rêvé. Mais pour que ça reste, alors que c'est un truc vraiment enfantin, je l'ai rêvé plusieurs fois. Je ne sais pas si les mecs se rendent compte que... Alors, ça va peut-être être un gros cliché, ce que je vais dire. Mais c'est qu'il y a des choses qui sont connotées romantiques qui, en fait, pour les femmes, sont excitantes. Des trucs affectifs, affectueux, mais qui font partie, en fait... du discours sensuel. En fait, la sensualité, c'est pas forcément prendre contre le mur de la cuisine en tirant les cheveux. Bah non, en fait, ça c'est un scénario. Mais en fait, parfois juste à un moment tenir la main, bah ça va avoir un effet très fort, quoi. Et ouais, non, c'est vrai que les mains, je pense qu'il y a une symbolique de l'engagement, hein, clairement, tenir la main. Et ouais, c'est marrant. C'est un truc qu'on n'ose plus faire adulte. C'est un truc, tu sais, qu'on demande aux enfants pour monter en classe. Il faut se tenir la main. En rang, hein, se tenant la main. Ouais, ouais. Bah ouais, je trouve ça super, se tenir la main.
Ah, mais pendant que tu racontes tout ça, je viens de me rappeler de mon rêve. Cette nuit poético-érotique avec Paul Mirabel.
Mais non.
Endormi l'un contre l'autre.
Bah oui, Paul Mirabel, évidemment, il fait genre son personnage de loser qui plaît pas aux meufs, alors qu'évidemment qu'il a un charme et un succès fou.
Tu crois?
Oh bah ouais, de toute façon, les mecs, quand ils sont drôles, ouais. Ils ont tellement gagné, c'est d'avance, quoi. Ça, c'est... Ça paraît... Ouais, je trouve que c'est vraiment... Les nanas, on sait vraiment rendre hommage à l'humour. Il y a des mecs qui sont évidemment aussi charmés par l'humour d'une meuf. Mais bon, hein, c'est pas autant que nous, quoi. Nous, un mec drôle, dis donc, on lui décerne la palme. Enfin, vraiment, je trouve que... J'ai l'impression que chez les femmes, vraiment, ça nous impressionne beaucoup plus que l'intelligence.
Alors, le problème, c'est qu'une femme drôle et belle, ça passe, mais faut quand même belle à la fin.
Ouais, quoi. Ouais, ouais, exactement. En fait, une nana qui a du caractère, qui est marrante et qui est pas spécialement jolie, ça va absolument pas, ça va être une bonne pote. Alors que nous, un mec pas spécialement beau, mais avec un humour incroyable, bah, il devient beau.
Alors, puisqu'on est dans la para, je voulais te faire un cadeau totalement infaisable, puisqu'il n'existe pas. Mais je sais que t'adores Jacques Demy, et moi aussi. Alors, vu qu'on parle de la nuit, je voulais t'offrir une robe couleur de lune.
Ah, oh, je la reçois.
Donc, elle est virtuelle.
Merci.
Voilà, mais c'était ma conclusion à cet épisode.
Magnifique.
Merci, merci beaucoup, Rosa. C'était
merci
trop
beaucoup,
cool
Margot.
De t'avoir. Donc, trop...
Rosa, Rosa, Rosa.
Rêver autant le jour que la nuit, c'est toute la poésie de Rosa, dont l'humour cache toujours de l'amour. Alors rendez-vous à la nouvelle scène les vendredis et samedis à 21h et en tournée. Et puis il y a une prolongation du spectacle à la Comédie de Paris à partir du 17 janvier. Vous pouvez aussi écouter ou lire Les Mecs que je veux ken. Moi je les ai presque tous écoutés. Et pour vous faire une reco, mon préféré, je pense que c'est l'épisode avec Alex Vizorek qui est tout bourré. C'est hilarant. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Ciao.